かしい、おかしい。その感じ。
Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui vous propose ce soir trois thèmes. D'abord, ouverture ce vendredi de la session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement. Ensuite, province de l'Équateur, le ministre de la Défense nationale affirme que la sécurité s'est rétablie à Dongo et invite de cesser la population à regagner ce secteur qui est redevenu vivable. Et enfin, la société civile de Dongo en province orientale accuse le gouvernement congolais de négliger la question des rebelles ougandais de la LRA. Trois confrères sont avec moi dans le débat pour en parler. Il s'agit de Fidel Moussangou, il est coordonnateur du quotidien Le Phare, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Jean-Pierre Moukengue, il est éditeur directeur général du journal La Cloche, c'est un tri hebdomadaire paraissant à Kinshasa et destiné aux deux Kassai. Et Théodore Kadingou, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise SNC Kananga au Kassai occidental. Ouverture de la session extraordinaire au Parlement, amélioration de la situation sécuritaire à Dongo, réaction de la société civile de Dongo suite aux attaques de la LRA, tels sont les thèmes qui seront l'objet du débat de ce soir. Comment les différents journaux kinois ont traité ce sujet? Écoutons cette revue de presse que nous présente Kelly Coupé.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'ouverture ce vendredi 15 janvier 2010 de la session extraordinaire au Parlement. À la une du journal Le Potentiel, Parlement, trop de matières pour une session extraordinaire. Députés et sénateurs se lancent le défi d'examiner, d'adopter au pas de course cette matière, parmi lesquelles des arriérés législatifs de 2007 et une nouvelle matière inscrite au calendrier de la session de mars 2008. Au journal de conclure, c'est trop pour une session extraordinaire de 30 jours. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale, les députés mis devant leurs responsabilités. C'est le titre de l'Observateur pour ce journal. Dans cet exercice de haute portée patriotique, les députés ne devraient pas perdre de vue qu'ils sont là pour exercer un mandat leur confié par de nombreux Congolais qui croupissent dans une misère noire. Quittons l'hémicycle du Palais du Peuple pour parler de la situation sécuritaire dans la province de l'Équateur. Le phare titre « Rébellion de Dongo Mwando dénonce des acteurs politiques ». Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'insurge contre l'instrumentalisation de la population par des opérateurs politiques en quête de positionnement. Il invite ces derniers à s'investir dans la culture de la paix. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé mercredi dernier à Kinshasa. Dongo, le gouvernement de la République clarifie enfin les choses, écrit le palmarès. Le gouvernement a posé des actes d'assistance à travers le ministre de la Défense nationale en faveur des populations affectées. Par cette occasion, le ministre Mwando Simba demande aux populations de regagner leur lieu d'habitation. C'est la fin de ce journal de journaux. Merci de l'avoir suivi.
Merci de l'écouter pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Fidel Moussangou, vous êtes coordonnateur du quotidien Le Phare, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Vous venez de suivre cette revue de presse. Comment appréciez-vous le travail fait par la presse chinoise pendant cette semaine?
Je suis nommé impliqué parce que je suis cité pour titrer sur la rentrée parlementaire.
Voilà.
Donc c'est du bon travail.
Ok. Et Jean-Pierre Moukengue, vous êtes éditeur directeur général du journal La Cloche, c'est un tri hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Y a-t-il, selon vous, une information que vous jugez importante, mais qui n'a pas été évoquée dans la presse de cette semaine?
Merci. J'ai toujours apprécié la compétence avec laquelle les quotidiens de Kinshasa analysent les faits des jours. Ils sont toujours à la page. Hein.
Ok, ils sont à la page. Théodore Kadingou, journaliste à la radio télévision nationale congolaise RTNC Kananga au Kassai occidental. Et quelle est l'actualité qui a dominé au Kassai occidental cette semaine?
Merci beaucoup, Guy Mathé. Je commence par saluer les confrères qui se trouvent avec vous au studio, Jérôme Gongo de la radio Kapi. Et bien sûr que je suis à vos côtés par téléphone interposé, soit Jean-Pierre Moukéné, monsieur Fidel Moussaou. Bien chez nous à Kananga, l'actualité est dominée par la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale du Kassai occidental. Une rentrée qui a lieu cet après-midi dans la grande salle des réunions du bâtiment administratif. Un communiqué d'ailleurs en ce sens a été lancé sur les antennes des radios de Kananga depuis hier jeudi. Bon, une autre actualité, c'est cette éclipse solaire ou annulaire, hein, je n'ai pas de prendre l'un ou l'autre terme, mais c'est quand même un non-événement à Kananga car rien ne s'est produit. nous avons attendu pour vivre ce phénomène, mais en vain, alors que la plupart des écoles avaient jugé sage de demander à leurs élèves de rester à la maison afin de les épargner des effets des suiteurs des rayons ultraviolets ou infrarouges sur les rétines de ces curieux, qui sont des enfants, le comité, ils font toujours le contraire de ce que vous leur demandez. Et une autre nouvelle, là, n'est pas vous cacher si je ne suis pas trop bavard, je dis, c'est la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de trois bâtiments, de deux étages chacun, du complexe du lycée Télé-Télé, que Jean-Pierre Moukénier et Fidel Moussan doivent connaître exactement dans la commune de Katoka. Eh bien, ces travaux sont lancés depuis mercredi dernier par le ministre provincial de l'éducation, culture et tourisme, l'ingénieur Albert Benelé, c'est au nom du gouverneur Trésor Kapoukou qui était en mission ce soir.
Merci.
Voilà.
Merci, nous passons à notre premier thème ce soir. Ouverture ce vendredi de la session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement. Les membres des bureaux des deux chambres se sont rencontrés pour l'harmonisation des matières à discuter au cours de cette session. Et la dernière rencontre d'hier jeudi s'est tenue à huis clos. Quels sont les principaux enjeux de cette session extraordinaire? Des explications avec Julien Niamoni.
Trois sujets peuvent être retenus comme les principaux enjeux de cette session extraordinaire du Parlement. La CENI ou Commission électorale indépendante, les crédits provisoires et le budget 2010. En tout cas, les deux bureaux du Parlement sont d'avis qu'il faut réajuster le tir dans l'affectation des recettes additionnelles, selon les observations du chef de l'État. Une question qui a mis d'accord aussi bien l'opposition que la majorité. Ensuite, le pays n'ayant pas le moyen de sa politique, faute de budget en ce début de l'année, les deux chambres vont examiner en urgence le projet de loi portant sur le crédit provisoire qui sera présenté dans le meilleur délai par le gouvernement. Et au sujet de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante est l'un des enjeux de cette session. Le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se mettre d'accord dans le même terme au cours de cette session extraordinaire. Ce peut être une brèche ouverte pour la société civile qui continue à revendiquer sa représentation au sein de sa structure.
Oui, Fidel Moussangou, quelle analyse faites-vous sur l'opportunité de cette session extraordinaire?
Vous savez, les Congolais ont toujours du temps à perdre. Ce qu'ils vont faire maintenant, ils auront pu le faire durant toute la session d'octobre. C'est une session pour le budget. Ils ont passé le temps à se chamailler sur des broutilles. Maintenant, le budget leur a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les quatre institutions ont péché. D'abord, le président de la République. Il est tenu informé régulièrement de la marche des affaires de l'État par le Premier ministre. Donc, il savait qu'il était au courant de l'évolution de la confection de ce budget. Il a quand même des conseillers financiers et il est tenu régulièrement informé parce que c'est une question capitale.
C'est pourquoi il a renvoyé.
Non, il aurait pu le faire au Parlement. Non, mon cher, au moins, ça s'est discuté au Parlement. C'est à ce moment-là qu'il aurait pu jouer sur certains députés de sa famille ou de l'opposition pour dire attention. Telle affaire ne marche pas. Pourquoi vous tablez le budget sous 500 francs le dollar américain? Depuis le début, il n'avait pas attendu qu'on puisse maintenant consommer, discuter, adopter pour dire non, je vous renvoie le travail.
Il n'aurait pas été accusé de s'être ingéré dans les affaires.
Il est lui-même le président de l'exécutif, celui qui préside le conseil des ministres. Et quand il n'est pas là, c'est le Premier ministre qui prend des actions de pouvoir. Donc il était mieux informé. Deux, le Premier ministre, il a fait un budget. Parce qu'il était obligé de le faire, d'autant plus que c'était par son gouvernement. Mais il devait savoir aussi que ce budget était irréaliste. Et puis, en même temps, un budget mendiant. Un budget, nous sommes des mendiants. Un budget où on nous présente la situation de 2,5 milliards de dollars par an. Le Congolais, nous sommes capables de produire que 2 milliards de dollars. Ça, c'était la mendicité. Il faut arrêter cette affaire là-bas. C'est ça le problème qui est là. Troisièmement, maintenant, le Parlement lui-même a passé son temps à dire des âneries.
C'est ce qu'on appelait âneries.
C'est des histoires sans fondement.
Et vous faites allusion à quoi?
Mais par exemple, le taux du dollar. Comment voulez-vous évaluer un budget par rapport donc au dollar qui vaut 500 francs congolais? Et à ce moment-là, au moment où vous discutez, le dollar était déjà 800 ou 900 francs. Donc il devait dire qu'il faut réajuster. Deux, il y a aussi un problème de recettes. Il devait savoir que non. Les recettes doivent être regardées, ils savent. Parmi eux, il y a des fiscalistes, il y a des économistes. Ils savent que c'était un budget irréaliste.
Mais c'est pourquoi ce budget a été étoffé par la commission économico-financière.
Mais tous dans le même sac. La commission, c'est des députés. Et puis, troisième responsable, ou quatrième, c'est l'institut au cours des tribunaux.
et ils étaient au courant de toutes les magouilles pour minorer les recettes afin de se servir. Ils auraient pu même, par simple réquisition d'informations, jouer le rôle en tant que cour et tribunaux, institution, et sanctionner. Moi, je peux excuser le Premier ministre. Il attendait au moins le succès de l'Assemblée. Je n'excuse pas, je ne pardonne pas le président de la République, l'Assemblée nationale et les cours de tribunaux. Parce qu'au moins, ils avaient la tâche de corriger ou de renvoyer le Premier ministre. Je vous dis, monsieur, on n'est pas d'accord, reprend.
Le fait que le chef de l'État ait renvoyé ces textes au Parlement pour une seconde lecture, est-ce que ce n'est pas une façon de corriger aussi les...
Non, il est tenu régulièrement informé de la marche des affaires de l'État par le Premier ministre. Donc, il n'a pas dit qu'il ne savait pas. Et puis, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Il était posé la question. Et au cours de débat à l'Assemblée, il aurait joué à travers certains députés de sa famille politique. On dit ça non, ça non, ça non. C'est ça comment le président joue.
Jean-Pierre Mokenge, êtes-vous d'accord avec ce que vient d'affirmer Fidèle Moussango?
D'accord ou pas, et puis je pense que Fidèle Moussango a presque été ramassé. Mais c'est que je sais que le renvoi du billet des ministres au Parlement est une interpellation du président de la République auprès des élus à la représentation nationale. Ça veut dire ceci. Le président, quelque part, même s'il y a eu des conneries, même s'il y a eu des cachets, il s'est retrouvé, il a pensé comment, parce que j'ai vu dans ces billets-là, plus de 40% du billet affecté aux seuls parlementaires à l'ère complice qui sont au Parlement. Je dis complice parce que la plupart des ministres sont les chefs des partis politiques qui ont été élus députés nationaux ou sénateurs. Alors le président a trouvé qu'il n'est pas le président des parlementaires seuls ou des ministres, il est le président de tous les Congolais. Alors les 80 millions de Congolais ne se retrouvaient pas. Ils ne se retrouvaient pas. D'où il a renvoyé ce billet, il savait que raison, parce que je disais l'autre fois qu'il n'y a aucun travail parfait ici sur Terre. Si le président s'est retrouvé quelque part, peut-être par un coup de fil, c'est mon sens que la presse, je ne sais pas si ils ont des relations, c'est qui m'attend, ou c'est quelqu'un qui les fait réguler, disons, c'est celui d'attention, ça c'est un piège. Comment ces gens doivent s'étayer la part d'union alors que servira au peuple congolais? Il a renvoyé le billet, c'est une interpellation, et c'est une première pour la République démocratique congolaise, généralement pour l'Afrique. Et aujourd'hui, ils vont travailler sans billet, avec, et c'est pas possible. Il faut que nos élus à la représentation nationale savent qu'ils ne peuvent pas cette fois-ci, comme mon prédécesseur Fidèle l'a dit, et chercher à des interpellations des ministres, des ADG, des ceci, pour faire passer le temps, parce qu'ils ont une section extraordinaire de 30 jours très surchargée. À part le billet 2010. Il y a le projet de la loi
sur l'indépendance,
exactement, qui est très attendu par la population congolaise, pour son organisation et son fonctionnement. Il y a même des lois sur le fonctionnement du commerce à la République démocratique du Congo qui datent de 1985 sur un décret signé par le roi souverain. Vous comprenez, un pays souverain, indépendant, qui fonctionne avec une loi qui date d'il y a des années, avant que les questions de voilà. Donc, nous demandons aux parlementaires, cette fois-ci, de ne pas dormir sur les lauriers, parce qu'ils n'ont pas une section extraordinaire de tous les jours.
Oui, Théodore Kadingou, je crois qu'il faut saluer ce geste du chef de l'État qui, par les renvois de ces textes au Parlement, comme venait de le dire Jean-Pierre Mokenge, le chef de l'État est en train d'interpeller les parlementaires sur leurs devoirs.
Oui, tout à fait. Fidèle n'a pas du tout tort, ni Jean-Pierre non plus. Chacun de nous a sa lecture. Hein. Mais j'aimerais quand même ajouter un petit truc pour dire que si ces textes sont vrais, que le président est tenu au courant de tout ce qui s'est dit au Parlement, et ainsi de suite, mais peut-être qu'on lui aurait caché l'autre face de la médaille. Voilà donc sa réaction. Mais j'ai été personnellement content d'entendre que cette question extraordinaire sera ponctuée des enjeux politiques majeurs. On a cité notamment la CENI, le crédit provisoire et le budget 2010. Dans ce sens, les prochaines élections dans notre pays ne peuvent se tenir dans cette commission électorale nationale indépendante. Nos parlementaires savent également que la loi électorale devra subir quelques modifications au niveau de certains articles afin qu'elle soit plus adaptée. Mais j'exprime une certaine crainte cependant. En suivant la revue de la presse chinoise ainsi que notre prochaine, les volumes des arriérés législatifs et les autres points appelés à être débattus lors de cette session extraordinaire, eh bien, tout cela risque d'imprimer à nos élus un rythme de travail stressant quand je considère la durée de cette session de janvier. Je souhaite fortement que les bureaux des deux chambres réunis à huis clos hier ont pu mettre en ordre d'importance les points à discuter en plénière et à harmoniser leur vie sur les priorités nationales, sinon le peuple les enferme. D'autre part, oui, je le pense, j'en suis convaincu, et je ne suis pas le seul. Nos élus, les élus du peuple congolais, députés et sénateurs confondus, de l'ANP, de l'opposition, devront discuter honnêtement et franchement autour du projet du budget 2010. Comprenez un peu, un texte comme celui-là, renvoyé au Parlement pour une relecture, comprenons les termes, alors que nos élus avaient discuté ferme, fidèle l'a dit, et décidé à l'unanimité ou par vote à la majorité, c'est sans plus un carton rouge sorti par le chef de l'État contre un texte où il a dû relever certaines imperfections. La nouvelle histoire de notre pays doit s'inscrire, hein, sur des bases solides. Que nos députés le sachent, voilà ce que nous attendons de nos parlementaires. Il y a d'ailleurs un adage qui stipule « On juge le maçon par le pied de son mur ». Et dans le cas de figure, le maçon, c'est notre fameux parlement qui n'a pas réussi à mélanger sable, gravier, ciment, moellon pour asseoir une fondation solide capable de supporter le poids du mur. Hein. Le message du chef de l'État est clair.
Merci.
Le peuple congolais doit se retrouver dans ce budget eu égard aux réalités socio-économiques de l'heure. Sinon, il ne finit pas. Il ne cherche pas le soleil avec un tamis. Hein.
Merci. Fidèle Moussango, donc les députés de l'opposition avaient raison de rejeter ces textes, ces projets de budget.
Oh non, non, ils sont tous dans le même sac. Opposition, pouvoir dans le même sac.
Au moins, eux n'ont pas voté pour ce projet de budget.
Oui, mais ça veut dire qu'ils ne votent pas, mais qu'est-ce qu'ils ont proposé C'est facile de crier et de ne pas voter. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Est-ce que ces députés, ce sont de l'opposition parlementaire? Ils se sont une fois intéressés au barème des salaires des agents de l'État. Tous confondus. Et ils s'intéressent à l'ordre des monuments, c'est tout. Parce que s'ils avaient, ils pouvaient commencer par corriger ce budget, ce projet de budget, et d'abord voir quelle est la masse salariale qui est proposée et quel est le barème. Pour savoir, le secrétaire général touche autant et l'huissier touche autant. Ce n'est pas leur affaire. C'est un. Est-ce qu'ils se sont intéressés au salaire des militaires, des agents de service de sécurité de la police? Non. Ils s'intéressent à leur dip. C'est là où je trouve qu'il y a un manque de solidarité nationale au sein du Parlement. Ils sont fautifs tout autant opposition que parlement. Mais là, le deuxième point, c'est le problème de la CENI. Oui, la CENI est bien beau. La loi de la CENI, est-ce que ça demande de passer par le Parlement? Au niveau de la Commission, on a déjà eu la CENI. On prend la loi CENI, la CENI, et on y va. Mais ils vont se chamailler sous des virgules. C'est ça la mentalité congolaise. C'est ça la médiocrité congolaise. Ça a commencé depuis 60. Pour une vidule, on va passer des soirées entières, c'est lui qui intervient à tort et à trouver. Et là, parfois, je ne pardonne pas les présidents de la séance, qui est la police des séances. Il a dit, honorable, ça c'est déjà dit, arrêté. Oui. Alors, le troisième point, c'est le crédit pour le pouvoir. Oh là là, là c'est le travail du ministre obligé. Il vous dit, voilà, c'est compliqué. Ça, c'est le travail d'un jour. Ça ne demande même pas un débat. Le problème, le débat, c'est la grille des salaires. Vous savez, des petits pays, je prends toujours le Rwanda comme modèle. Les petits pays Rwanda, là, mais là, il y a des cerceaux. Ça veut dire, la grande partie du budget, c'est pour les dépenses de fonctionnement, notamment les salaires, qui doivent être payés à temps. Et là, vous n'avez pas des écarts impossibles. Vous savez, dans ce pays, les ministres vont au bureau avec leur voiture. C'est quand il reçoit un ministre, donc son collègue étranger, qui demande au premier ministre une voiture à un chauffeur. Il va l'accueillir et le jour qu'il part, il prend sa voiture. C'est pour réduire les dépenses. Mais ici, on monte les dépenses politiques, on les grossit au détriment des salaires. C'est qui est grave.
Merci Jean-Pierre Moukengue. L'on parle de la loi sur la CENI, les crédits provisoires et la révision du budget 2010. Et vous pensez que 30 jours vont suffire pour épuiser toutes ces matières?
Je le disais tout à l'heure, c'est un point de sacrifice. Comment voulez-vous, par exemple, que nos élus à la représentation nationale, lorsqu'ils sont convoqués pour se présenter à l'hémicycle à 11h, vous trouverez à 11h, il y a 3 personnes, à midi, il y a 2 qui viennent, à 13h30, il y a 3 qui se trouvent dans un restaurant quelque part, ou dans un bar en train de siroter une bière. Alors, avec ce rythme-là, ils ne peuvent pas achever leur jour qui est proposé maintenant. Pourtant, c'est une position, c'est un travail de sacrifice. Ils doivent respecter l'air, ils doivent respecter leur jour, et ils doivent savoir qu'ils doivent résoudre les problèmes d'intérêt communautaire, d'intérêt général. Et d'intérêt général, ils peuvent faire le travail que les autres peuvent faire en une année.
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir. Province de l'Équateur, le ministre de la Défense nationale affirme que la sécurité s'est rétablie à Dongo et invite de cesser la population à regagner ce secteur qui est redevenu vivable. Ceci après la mise en déroute des assaillants par l'armée loyaliste. Ces propos sont du ministre Charles Mwando Simba qui revient d'une mission de 4 jours dans ce secteur. Dans un point de presse tenu mercredi dernier à l'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense nationale se félicite du comportement des militaires sur le terrain et invite les habitants des Dongo à regagner leur secteur. Un extrait de ses propos au micro de Basile Bakumbane.
Il y a donc lieu de se rassurer de trois choses. Primo, les insurgés sont réduits à leur plus simple expression. Et la sécurité se rétablit davantage sur l'espace Guémena, Dongo et Niélé. Mais c'est deuxièmement, les éléments de FARDC engagés dans cette opération ont affiché un comportement exemplaire du point de vue du respect des droits de la personne humaine, protection de la population civile et c'est bien respect du droit international humanitaire. Enfin, nous avons eu à inviter cette population à regagner son coin parce que le gouvernement était prêt à l'aider à reconstruire les quelques cases. Nous saisissons cette occasion pour inviter les compatriotes à conjuguer les efforts pour que cette population soit soutenue et vive en symbiose et en harmonie.
Théodore Kadingou, votre analyse par rapport à cet appel du ministre Charles Mwando Simba?
Donc c'est un bon appel, hein, qu'est-ce que vous voulez? Nous savons que nos compatriotes de l'Équateur n'ont pas passé dans la quiétude les fêtes de Noël de bonne année, pour la simple raison qu'il y a eu certains illuminés qui pensent que les armes résolvent les problèmes. Mais si aujourd'hui le ministre annonce que la situation est redevenue normale, je merci pour la paix retrouvée. Mais pourquoi la population hésite à revenir? Voilà ce qu'il faut chercher à savoir. Et si déjà le gouvernement central a réussi, comme le ministre l'affirme, a réussi à récupérer Dongo, c'est pas fini. Il doit chercher à récupérer la confiance de la population. Le sort de nos compatriotes doit nous interpeller. Ça nous concerne tous, gouvernés, gouvernants. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette méfiance de la part de la population.
Fidèle Moussangou, comme vient de le dire Théodore Kadingou, après la défaite des assaillants, que faut-il encore faire pour permettre une cohabitation pacifique des populations dans cette partie du pays?
D'abord, écoutez, il faut être honnête quand on parle des problèmes qui intéressent la sécurité nationale. Ce que dit le ministre de la Défense, lui sait très bien que le problème des Iliens n'a pas été résolu. On n'a pas examiné le fond de la question.
C'est quoi le fond de la question?
La question, il s'agit d'un coup qui a été perpétré par des gens venus, on ne sait d'où, mais lui doit savoir. Il n'a pas nous dit que les assassins ont été battus, mais ils se sont repliés dans la bouche. Les assassins deviennent plus dangereux parce qu'ils vont en particulier dans la guérilla. Qu'est-ce qui vous dit que ces gens ne vont pas sourire demain en Bandaka? Ils prennent la ville. D'autant que l'armée congolaise n'a pas de moyens de mobilité. L'armée congolaise a bénéficié de l'appui de l'armée belge. Ce sont les 2 C-130 donnés par la Belgique qui ont permis de transporter les éléments des FARDC jusqu'à Guémena et avancer vers Tongo. Entre temps, c'est la MONUC qui a donné la logistique. Il dit des choses auxquelles il ne croit pas.
Ah bon?
Oui.
Pourquoi?
Mais parce qu'écoutez, il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu affrontement.
Mais le ministre, même les porte-parole du gouvernement central, a affirmé qu'il y a eu affrontement pendant au moins 10 heures de temps. Les assaillants ont résisté pendant 10 heures de temps.
Papa, c'est lui qui raconte ça. Mais on ne nous a pas montré les prisonniers. Tout ce que nous savons, c'est la population civile qui a payé le prix le plus long.
Vous avez d'autres sources qui...
Oui, des sources de l'ONU, de la MONUC.
Bien. La MONUC n'a jamais infirmé, n'a jamais contredit les propos du ministre de la Bernier.
Si, la MONUC a très bien dit que les assaillants ont disparu de la nature. Ça, c'est la première information.
Mais après cet affrontement entre les assaillants et les
on nous dit qu'on a tué ceci, on a tué cela, on a blessé ceci. Dès que la MONUC est arrivée, ces gens-là ont disparu. Ces gens-là, ils ont pris Dongo, ils ont même pris des véhicules de la MONUC. Ils ont commencé à circuler le fameux chef de Nile. Bon, on parle des conflits autour des étangs. Les étangs n'existent pas. Ces gens habitent au bord du fleuve, ils pèsent à le fleuve. Ils n'existent pas, il n'y a pas eu conflit entre les tribus. Et depuis quand un conflit entre les tribus va intéresser l'armée nationale?
Et donc vous remettez en cause la version donnée par le gouvernement central?
Mais écoutez, la MONUC l'a dit, elle a dit que non, c'était des... On ne comprend pas, c'était un groupe de loups et puis disparu. C'était des bandits, des malheureux qui ont fait des coups et puis disparu. Mais le drame, c'est que qui est derrière ces inhumés? C'est ça la question sécuritaire.
Et c'est ce que le ministre ne veut pas dire. Ou bien c'est pour des raisons de sécurité, il ne dit pas. On ne nous a pas présenté les prisonniers. Affrontement pendant 10 heures, pas des prisonniers, pas des morts.
Le ministre Mengde affirme qu'il y a quelques personnes qui ont été arrêtées et qui ont été transférées ici à Kinshasa.
Nous attendons le procès. Parce que 80 000 Congolais sont en vue de le Congo-Brazzaville. Mais les assaillants ont ce sont voltés dans la nature. Mais le prisonnier, il faut le présenter à la presse. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas autorisé que la presse nationale internationale fasse un saut sous Dongo? Première question. Qu'est-ce que le gouvernement a caché?
Et pourquoi la presse elle-même n'a pas pris cette initiative?
On n'a pas les moyens. Et qu'on n'a pas de situation. Qui va aller à Dongo là? On risque de le confondre avec les rebelles ou les assaillants. Donc, ils auraient pu nous prendre, nous, au moment où le défait, même à partir de Gébena, on n'a pris personne. Aucun organe n'a fait le passage de Dongo. Même la presse internationale qui était ici pour demander d'aller. La presse internationale a des moyens, par exemple, ils ont des reporters de guerre. On leur a refusé l'accès à Dongo. Donc, ça cache quelque chose.
C'est vous qui nous donnez cette information.
Non, mais ils étaient avec nous. Ils nous ont dit, nous, on attend aussi qu'on nous appelle, qu'on nous embarque.
Pierre Moukengé, comment réagissez-vous au propos des fidèles Moussangou?
Personnellement, il m'est difficile d'aller à l'encontre des déclarations officielles faites par les membres du gouvernement central, notamment Mondou Simba et son collègue Lambert Mende, qui sont respectivement ministres de la Défense nationale et anciens combattants, et celui de la communication et médias. Ce que je sais est qu'il y a une question qui se pose autour de cette question. On trouve qu'encore des séquelles de l'insécurité dans cette partie de la République. Parce que si aujourd'hui on parle des Amani Léo, après qu'il y a un, qu'il y a deux, et que c'est Amani Léo, pour bien fonctionner, il faut que notre armée nationale, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, soit assistée par une force étrangère qui est la force démoniaque, c'est qu'il y a encore quelque chose.
Mais vous savez que les FARDC sont dans une phase de récomposition, de reconstitution.
Oui, je le sais bien sûr, mais écoutez, lorsqu'il y a la paix quelque part, lorsqu'il y a un calme total quelque part, et ça ne sert à rien de faire appel à une force étrangère pour assister à cette force qui est en plein rétablissement. Au contraire, c'est leur terrain, ils peuvent jouer comme ils veulent, ils peuvent circuler, ils peuvent rappeler. Vous savez que la fuite de ces gens-là, c'est aussi une fuite interpsychologique.
La fuite des assaillants des Inyélé?
Non, on a la fuite d'abord des habitants, des villageois, qui ont erré par ici, par là. Qui
les habitants des Dongo?
Oui, des villes de Dongo. C'est une manière psychologique. Ces gens-là peuvent ne pas être présents, ils sont dans la bouche. Lorsque quelqu'un paraît, il a arrêté une femme, il a coupé les seins des autres filles.
Théodore Kadingou, à votre avis, quel mécanisme faut-il mettre en place pour prévenir ce genre de situation?
Il y a une seule chose, c'est notre gouvernement central se refuse à mettre sur pied une armée loyaliste. Une armée qui puisse défendre l'intégrité de notre territoire, et alors le faire de manière juste, claire et transparente. Ainsi, elle sera capable, cette armée, de dénicher, de décourager, de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui se refusent à saboter cette loi nationale, et ils sont ainsi capables de défendre notre territoire national. Nous savons bien ce qu'est notre armée aujourd'hui, les confrères l'ont dit. Hein, c'est un conglomérat des anciens militaires qui nous ont fait la guerre d'abord, et puis ils ont été mis ensemble avec des soldats loyaux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais la situation, justement, à l'Équateur, appelle plus de maîtrise de la part des autorités nationales. Hein. Cette province, considérée comme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'était considéré comme bastion de l'opposition. On ne s'en cache pas, mais elle fait partie de notre territoire national.
Fidèle Moussangou, quelle leçon peut-on tirer de cette question?
La leçon est que le gouvernement actuel ne fait aucun effort pour mettre en place une armée nationale, républicaine et au service de la nation et des pays voisins.
Nous sommes les efforts sont faits par le gouvernement.
Moi, je ne vois, écoutez, quand moi j'étais adolescent, chaque année, je voyais dans ma ville natale à Bukavu, on venait recruter des jeunes gens pour aller à Kitona, à Kotakoli, à Irebu, à Kamina. J'ai des oncles, des cousins qui ont une formation de pilotes militaires, d'une qualité militaire formée à Kamina. Kamina base formée des pilotes et des mécaniciens, depuis l'époque coloniale. Kitona formait des hommes de troupes, 9 mois CI, centre d'instruction de Kitona. Les plus vigoureux allaient maintenant à Kotakoli pour le commando. Des parachutistes, on en formait, et j'ai vécu des entraînements militaires. Le Congo dispose des meilleurs centres d'entraînement des militaires au monde. Parce qu'avant, les militaires américains, français, belges venaient s'entraîner à Kotakoli, à Kitona, à Kamina, même à Arou et les centres d'entraînement. Donc, et nous avons des excellents militaires bien formés, les Kaloumé, tous les grands généraux là-bas, qui peuvent devenir des instructeurs efficaces. Et puis d'autre part, je ne vois pas des jeunes gens, parce qu'à l'époque, moi j'ai failli être recruté en 1970 pour aller faire l'aviation. C'est ma mère qui s'est interposée. J'avais passé les fêtes, tout ça. J'ai des amis qui ont fait des militaires, des amis de ma promotion. Mais non, mais ils sont colonels ou général, comme je viens en avion là. C'est ma promotion. Bon, ils sont combien sur le bout des doigts? Combien avant-on, maintenant, pour que si je ne vois pas le recrutement au niveau des écoles secondaires, comme ça se faisait à l'époque, on prend des finalistes de maths, physique, chimie, ils font un test, ils vont dans les écoles supérieures militaires, aux États-Unis, en France, en Belgique, même en Chine. Et 3 ans après, ils nous reviennent comme brevetés d'état-major. Voilà l'armée. Ça ne se fait pas. Et puis, nous avons. Quelle est la valeur d'une armée? Comme on dit, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a pas de mauvais chefs. Il faut d'abord former de bons chefs qui vont imprimer une marque aux petits soldats. Voilà l'armée. Ensuite, il faut les payer, leur donner à manger. Moi, j'ai appris que le recrue avait toujours la ration. À midi, riz, haricots, morceaux de poisson. Soir également. Le matin, pain, pain. Et puis, leur poisson. C'est des gens de 19, 20 ans maintenant. Il faut les payer, les entraîner et les mettre dans la production. Ils peuvent produire, ils peuvent cultiver des champs pour produire à manger, qu'ils peuvent vendre et augmenter leur prime à la fin du mois.
Une armée de développement.
Voilà. Ça ne se fait pas. Alors maintenant, vous s'étonnez que des assaillants, des bandits. Moi, j'appelle ça des bandits. Parce que après la MONUC, le fameux chef de Nilé, qui vantait les fétiches, s'est même permis de se prendre pendant une semaine où il a pris le pouvoir à Dongo. Mais alors, si on avait une armée mobile, et puis le Congo n'a pas besoin d'une armée des fantassins. Le Congo a besoin d'une armée aéroportée, comme l'appelle le commando aéroporté, comme les États-Unis ont besoin d'une armée aéronavale.
Mais vous savez que la République démocratique du Congo fait face à des éléments qui utilisent la technique de la guérilla.
Mais donc les fantassins
sont
il faut une armée aéroportée. Par exemple, à Dongo, 500 personnes dans un avion, ils sautent sur Dongo. Des commandos. Comme en 77, les jeunes gens de Kananga, les jeunes officiers, avaient sauté sur Kolwezi avec les Français. Ils ont pris Kolwezi. Ils ont choisi les petits aventuriers qu'on appelait les diabotes. Alors. Donc on a une armée aéroportée et on a besoin d'une assistance militaire. On n'a pas besoin d'acheter un avion certain. On peut téléphoner à Bruxelles. En quelques 7 heures, vous avez 4 630 qui prennent vos gens bien entraînés qui sautent. Ça, où est-ce qu'on y songe? Moi, je suis militaire, mais c'est l'expérience d'un Congolais. Patriote.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. La société civile de Dungu en province orientale accuse le gouvernement congolais de négliger la question des rebelles ougandais de la LRA. Cette société civile estime que le gouvernement est plus préoccupé par les problèmes du nord et du sud Kivu, pendant que le district du Haut-Ouélé est aussi la proie des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Cette société civile se base notamment sur les déclarations au cours de la visite du ministre français des Affaires étrangères vendredi dernier à Kinshasa. Pour elle, toutes les déclarations sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ne concernaient que les deux Kivu. Aussi, pour l'abbé Benoît Kinalego, le président de la commission justice et paix du diocèse de Dungu et membre de cette société civile, le district du Haut-Ouélé est simplement abandonné par le gouvernement congolais. Écoutons-le au micro d'Anselme Massois.
Avec le passage de l'émissaire français, et aussi le nom de passer de l'Ouanda, le passage du Chassa, le passer à Brazzaville. Donc, il n'y a que le problème de Sud Kivu et Nord Kivu qui a été soulevé d'après cette déclaration. Tandis que le problème de l'extrême nord-est, qui concerne des étrangers sur notre territoire, il n'a même pas fait mention. Ça signifie que, au plus haut niveau de la hiérarchie, ce problème n'est pas un problème. Pendant que nous avons de mutuer dans des structures sanitaires, des morts qu'on est passé d'enterrer, tout simplement, et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. En tout cas, il faut qu'on prenne la présence de la LRA. Ce nous comme un problème auquel on doit trouver une solution. Il faut vraiment, quand on parle au gouvernement des mutilations, des gens qui sont dans des structures sanitaires de l'État, est-ce que ça, il faut vraiment en faire d'abord un cri avant de déployer pour qu'on sache qu'il y a un problème?
Théodore Kadingou, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Tananga au Kasaï occidental. Comment réagissez-vous aux accusations de la société civile des Dungu en province orientale?
Cette réaction-là de la société civile, Ce sont des déclarations qui ne mangent pas de données de sueur froide, hein, au Congolais que nous sommes. On dirait qu'il y a une partie de la République qui est complètement ignorée par le gouvernement. Du moins, en suivant, si nous prêtons foi à ces discours de nos compatriotes de la société civile. Hein, nos compatriotes à Dungu qui subissent des abus innommables perpétrés par ces seigneurs de guerre. C'est cette situation qui démontre combien il est très très difficile à notre armée, au temps où elle est maintenant, à pouvoir sauver ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut, comme mon confrère l'a dit tout de suite, il faut que l'on mette en place une armée congolaise, une armée loyale, une armée bien formée, une armée où, d'abord, nous avons nous-mêmes des techniciens. Ce sont des gens qui se retrouvent dans ces gouvernements ou à côté de... Ils sont là, ils sont sur place. Et ceux-là qui connaissent très bien ce pays, ceux-là qui ont été formés dans des grandes écoles, des armées à travers le monde. Et pourquoi ne pas faire appel à ces gens-là? Ils sont encore là, tous ces généraux. Je vais la citer par autre, entre autres, le général Kaloumé, il est là. Ce sont des gens qui ont la carte du Congo entre leurs mains. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être ça que le gouvernement devra faire, c'est faire de l'enfant pour mettre ensemble ces gens. Vous le savez, bien sûr, avec l'entrée de la FNEL, avec ce changement de pouvoir, il y en a qui sont partis en exil. C'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui est parti. Mais peut-être, c'est en fait qu'il est en patriotique, le gouvernement en place devait faire un effort, c'est-à-dire regrouper tous ces généraux, regrouper tous ces compatriotes qui ont choisi de servir ce pays sous les drapeaux et leur dire « ce pays nous appartient ». Ce pays est à vous, ce pays est à nous, c'est tout ce que nous devons faire pour sauver ce pays. En ce moment-là seulement, et de cette manière-là seulement, que nous aurons une armée sûre. Pour le cas de Dungu, est-ce qu'il s'agit d'une négligence? On doit se poser la question pourquoi. Est-ce qu'il s'agit d'une indifférence? Et tout ce qui pousse aujourd'hui la société civile de Dungu à clamer tout haut que le gouvernement ne s'intéresse pas à la situation de Dungu. Tous les Congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest ont droit d'être protégés par le gouvernement. Voilà ce qu'ils doivent se dire dans leur édition.
Merci. Jean-Pierre Moukengue, je rappelle que vous êtes éditeur directeur général du journal La Cloche, c'est un trihebdomadaire paraissant ici à Kinshasa et destiné aux deux provinces du Kasaï. Le commandant de la 9e région militaire, le général Jean-Claude Kifoua, fait un bilan positif des opérations militaires contre la LRA. Hein, c'était lors de son intervention mercredi dernier dans l'émission Dialogue entre Congolais. Il a avancé un bilan des 305 rebelles tués, parmi lesquels des officiers très proches du commandant de la LRA, Joseph Kony. Et le général Kifoua parle aussi d'une quarantaine de capturés qui se sont rendus. Comment comprendre ces paradoxes? D'un côté, la société civile se plaint, et de l'autre, l'armée établit un bilan positif.
J'ai totalement confiance à notre gouvernement et à nos forces de paix. Pour commencer, je pourrais tout simplement demander au gouvernement qu'il montre la volonté d'encadrer efficacement nos forces armées sur terrain. Encadrement moral, encadrement psychologique, encadrement dans tout le secteur, ces gens doivent être encadrés pour pouvoir fournir un travail auquel le peuple congolais s'attend. Si je veux parler des déclarations faites par la société civile de la province orientale ou de la présidente de la commission de justice, c'est tout à fait normal parce qu'on est mieux défendu que par soi-même. Mais je me rappelle que le président de la République, Joseph Kabila, avec un groupe de journalistes dont je faisais partie, avons roulé Faraya, Dungu, avons contourné toute la province pour dire qu'il n'y avait pas peut-être l'importance de s'inscrire à l'ordre du jour du passage des autres dans cette partie du pays qui était considérée déjà pacifiée et calme.
Fidel Moussangou, je rappelle que vous êtes coordonnateur du quotidien Le Pas, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et que proposez-vous pour débarrasser la province orientale des rebelles de la LRA?
Vous savez, j'ai suivi le général Kifoua. Bon, il raconte, il prête pour sa chapelle, il ne peut pas dire que son armée a été battue ou bien qu'il a fait. Non, il doit dire qu'on avance, on est en train de gagner. C'est pour justifier sa place et construire sa place. Le contraire, moi, lui recoûtait cher, hein, tout le plan de la disciplinaire. Mais moi, je fais attention à ce que dit la société civile. Parce que c'est elle qui est sur le terrain. C'est que la situation est grave.
Mais par des
gens sur le terrain. Oui, mais quel est le fond du problème? Il faut d'abord arrêter la corruption et les détournements qui rongent la vie nationale, principalement les forces armées. Vous pouvez avoir un ou deux bataillons là, dans la province orientale, mais si l'argent de la solde n'arrive pas, si la ration n'arrive pas, si les munitions n'arrivent pas, il ne peut pas se battre. Bien au contraire, il se rabat sur la population civile non armée pour se servir, pour avoir à manger ou violer des femmes. S'ils avaient de l'argent, ils n'auraient pas attaqué la population civile, ils n'auraient pas violé les filles, les femmes et les vieillards. Non. Voilà le fond du problème.
De cette manière-là, on peut se débarrasser de la
LRA, c'est d'abord des Ougandais qui savent qu'ils sont sur un territoire étranger. Donc, ils sont facilement prenables. Même s'ils connaissent les recoins, on peut bien les battre. Deuxième effort qu'il faut faire, il ne faut pas se voiler la face. Il faut être réaliste. On dit en Lingala, qui s'y a moi-ci, et en moi-ci. Qui s'y a oublié.
Comment vous allez cela?
Non, je dis. Pour régler un problème d'une femme, il faut utiliser une femme aussi. Ici, nous avons affaire à des rebelles ougandais. Alors, il ne faut pas se voiler la face, avoir honte, appeler l'Ouganda avec lequel nous avons des relations normales. Monsieur, venez nous aider pour réduire le problème de l'ERA.
Cela a déjà été fait?
Oui, mais on le fait, puis on le demande de partir avant on ait terminé la question. C'est quand même bête. On veut se donner des ailes pour dire non, soyez courageux. Monsieur le Ougandais, venez. Voici cette portion du territoire. Déplacez vos hommes. Autant, nous allons vous accompagner. Et puis, nous allons vous aider à traquer l'ERA.
Merci, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Alain Ngoyi était à la technique, Kélin Kouté à la réalisation, assisté de Maombi Mourkoumia, sous la supervision de Martin Sebouzangwe et de Vantémicro Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.
Okapi.